Tiens, vous avez bien lestement gagné votre gratification de 3 000 francs, s'écria Poiret, en tenant Vautrin debout, pendant que mademoiselle Michonneau lui remettait sa chemise. Ouf, il est lourd, reprit-il en le couchant. Taisez-vous. S'il y avait une caisse, dit vivement la vieille fille, dont les yeux semblaient percer les murs, tant elle examinait avec avidité les moindres meubles de la chambre. Si l'on pouvait ouvrir ce secrétaire sous un prétexte quelconque, reprit-elle. Ce serait peut-être mal, répondit Poiret. Non, l'argent volé, ayant été celui de tout le monde, n'est plus à personne. Mais le temps nous manque, répondit-elle. J'entends la Vauquer. Voilà de l'éther, dit madame Vauquer. Par exemple, c'est aujourd'hui la journée aux aventures. Dieu, cet homme-là ne peut pas être malade. Il est blanc comme un poulet.
Comme un poulet ? Répéta Poiret.
Son cœur bat régulièrement, dit la veuve en lui posant la main sur le cœur.
Régulièrement ? Dit Poiret étonné.
Il est très bien.
Vous trouvez ? Demanda Poiret.
Dame, il a l'air de dormir. Sylvie est allée chercher un médecin.
Dites donc, mademoiselle Michonneau, il renifle à l'éther.
Bah, c'est un sepasse,
un spasme.
Son pouls est bon, il est fort comme un turc. Voyez donc, mademoiselle, quelle palatine il a sur l'estomac. Il vivra 100 ans, cet homme-là.
Sa perruque tient bien tout de même.
Tiens, elle est collée. Il a de faux cheveux, rapport à ce qu'il est rouge. On dit qu'ils sont tout bons ou tout mauvais, les rouges. Il serait donc bon, lui.
Bon à pendre, dit Poiret.
Vous voulez dire au cou d'une jolie femme ? S'écria vivement mademoiselle Michonneau. Allez-vous-en donc, monsieur Poiret, ça nous regarde, nous autres, de vous soigner quand vous êtes malade. D'ailleurs, pour ce à quoi vous êtes bon, vous pouvez bien vous promener, ajouta-t-elle. Madame Vauquer et moi, nous garderons bien ce cher monsieur Vautrin.
Poiret s'en alla doucement et sans murmurer, comme un chien à qui son maître donne un coup de pied.
Rastignac était sorti pour marcher, pour prendre l'air, il étouffait. Ce crime commis à heure fixe, il avait voulu l'empêcher la veille. Qu'était-il arrivé ? Que devait-il faire ? Il tremblait d'en être le complice. Le sang-froid de Vautrin l'épouvantait encore. Si cependant Vautrin mourait sans parler, se disait Rastignac. Il allait à travers les allées du Luxembourg comme s'il eût été traqué par une meute de chiens, et il lui semblait d'en entendre les aboiements.
« Eh bien, lui cria Bianchon, as-tu lu Le Pilote ?»
Le Pilote était une feuille radicale dirigée par M. Tissot et qui donnait pour la province, quelques heures après les journaux du matin, une édition où se trouvaient les nouvelles du jour, qui alors avaient dans les départements 24 heures d'avance sur les autres feuilles. « Il s'y trouve une fameuse histoire, dit l'interne de l'hôpital Cochin. Le fils Taillefer s'est battu en duel avec le comte Franquesini de la vieille garde, qui lui a mis 2 pouces de fer dans le front. Voilà la petite Victorine, un des plus riches partis de Paris. Hein ? Si l'on avait su cela. Quelles 30 et 40 que la mort. Est-il vrai que Victorine te regardait d'un bon œil, toi ?
Tais-toi, Bianchon, je ne l'épouserai jamais. J'aime une délicieuse femme, je suis aimé, je...
Tu dis cela comme si tu te battais les flancs pour ne pas être infidèle. Montre-moi donc une femme qui vaille le sacrifice de la fortune du sieur Taillefer.
« Tous les démons sont donc après moi !» s'écria Rastignac.
« Après qui donc en as-tu ? Es-tu fou ?
Donne-moi donc la main, dit Bianchon, que je te tâte le pouls.
Tu as la fièvre. »
« Va donc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène. Ce scélérat de Vautrin vient de tomber comme mort. »
« Ah, dit Bianchon, qui laisse à Rastignac seul, tu me confirmes des soupçons que je veux aller vérifier. »
La longue promenade de l'étudiant en droit fut solennelle. Il fit en quelque sorte le tour de sa conscience. S'il flotta, s'il examina, s'il hésita, du moins sa probité sortit de cette âpre et terrible discussion éprouvée comme une barre de fer qui résiste à tous les essais. Il se souvint des confidences que le père Goriot lui avait faites la veille. Il se rappela l'appartement choisi pour lui près de Delphine, rue d'Artois. Il reprit sa lettre, la relut, la baisa. « Un tel amour est mon ancre de salut, se dit-il. » Ce pauvre vieillard a bien souffert par le cœur. Il ne dit rien de ses chagrins, mais qui ne les devinerait pas. Eh bien, j'aurai soin de lui comme d'un père. Je lui donnerai 1000 jouissances. Si elle m'aime, elle viendra souvent chez moi passer la journée près de lui. Cette grande comtesse de Restaud est une infâme. Elle ferait un portier de son père. Chère Delphine, elle est meilleure pour le bonhomme. Elle est digne d'être aimée. Ah, ce soir, je serai donc heureux. Il tira la montre, l'admira. Tout m'a réussi. Quand on s'aime bien pour toujours, l'on peut céder. Je puis recevoir cela. D'ailleurs, je parviendrai, certes, et pourrai tout rendre au centuple. Il n'y a dans cette liaison ni crime, ni rien qui puisse faire froncer le sourcil à la vertu la plus sévère. Combien d'honnêtes gens contractent des unions semblables ? Nous ne trompons personne. Et ce qui nous avilit, c'est le mensonge. Mentir, n'est-ce pas abdiquer? Elle s'est depuis longtemps séparée de son mari. D'ailleurs, je lui dirai, moi, à cet Alsacien, de me céder une femme qu'il lui est impossible de rendre heureuse. Le combat de Rastignac dura longtemps. Quoique la victoire dût rester aux vertus de la jeunesse, il fut néanmoins ramené par une invincible curiosité sur les 4h30, à la nuit tombante, vers la maison Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de quitter pour toujours. Il voulait savoir si Vautrin était mort. Après avoir eu l'idée de lui administrer un vomitif, Bianchon avait fait porter à son hôpital les matières rendues par Vautrin afin de les analyser chimiquement. En voyant l'insistance que mit Mademoiselle Michonneau à vouloir les faire jeter, ses doutes se fortifièrent. Vautrin fut d'ailleurs trop promptement rétabli pour que Bianchon ne soupçonnât pas quelque complot contre le joyeux boutentrain de la pension. À l'heure où rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc debout près du poêle dans la salle à manger. Attiré plutôt que de coutume par la nouvelle du duel de Taillefer, le fils, les pensionnaires, curieux de connaître les détails de l'affaire et l'influence qu'elle avait eue sur la destinée de Victorine, étaient réunis, moins le père Goriot, et devisaient de cette aventure. Quand Eugène rentra, ses yeux rencontrèrent ceux de l'imperturbable Vautrin, dont le regard pénétra si avant dans son cœur et y remua si fortement quelques cordes mauvaises qu'il en frissonna. « Eh bien, cher enfant, lui dit le forçat évadé, la Camuse aura longtemps tort avec moi. J'ai, selon ces dames, soutenu victorieusement un coup de sang qui aurait dû tuer un bœuf. »« Oh, vous pouvez bien dire un taureau !» s'écria la veuve Vauquer. « Seriez-vous donc fâché de me voir en vie ?» dit Vautrin à l'oreille de Rastignac, dont il crut deviner les pensées. « Ce serait d'un homme diantrement fort. » « Ah, ma foi, dit Bianchon, Mademoiselle Michonneau parlait avant-hier d'un monsieur surnommé Trompe-la-Mort. Ce nom-là vous irait bien. » Ce mot produisit sur Vautrin l'effet de la foudre. Il pâlit et chancela. Son regard magnétique tomba comme un rayon de soleil sur Mademoiselle Michonneau, à laquelle ce jet de volonté cassa les jarrets. La vieille fille se laissa couler sur une chaise. Poiret s'avança vivement entre elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en danger, tant la figure du forçat devint férocement significative, en déposant le masque bénin sous lequel se cachait sa vraie nature. Sans rien comprendre encore à ce drame, tous les pensionnaires restèrent ébahis. En ce moment, l'on entendit le pas de plusieurs hommes et le bruit de quelques fusils que des soldats firent sonner sur le pavé de la rue. Au moment où Colin cherchait machinalement une issue en regardant les fenêtres et les murs, quatre hommes se montrèrent à la porte du salon. Le premier était le chef de la police de sûreté, les trois autres étaient des officiers de paix. « Au nom de la loi et du roi !» dit un des officiers dont le discours fut couvert par un murmure d'étonnement. Bientôt le silence régna dans la salle à manger. Les pensionnaires se séparèrent pour livrer passage à trois de ces hommes qui tous avaient la main dans leur poche de côté et y tenaient un pistolet armé. Deux gendarmes qui suivaient les agents occupèrent la porte du salon et deux autres se montrèrent à celle qui sortait par l'escalier. Le pas et les fusils de plusieurs soldats retentirent sur le pavé caillouteux qui longeait la façade. Tout espoir de fuite fut donc interdit à Trompe-la-Mort, sur qui tous les regards s'arrêtèrent irrésistiblement. Le chef alla droit à lui, commença par lui donner sur la tête une tape si violemment appliquée qu'il fit sauter la perruque et rendit à la tête de Colin toute son horreur. Accompagné de cheveux rouges briques et courts qui leur donnaient un épouvantable caractère de force mêlée de ruse, cette tête et cette face, en harmonie avec le buste, furent intelligemment illuminés comme si les feux de l'enfer les eussent éclairés. Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son présent, son avenir, ses doctrines implacables, la religion de son bon plaisir, la royauté que lui donnait le cynisme de ses pensées, de ses actes, et la force d'une organisation faite à tout. Le sang lui monta au visage et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat sauvage. Il bondit sur lui-même par un mouvement empreint d'une si féroce énergie. Il rugit si bien qu'il arracha des cris de terreur à tous les pensionnaires. À ce geste de lion, et s'appuyant de la clameur générale, les agents tirèrent leurs pistolets. Colin comprit son danger en voyant briller le chien de chaque arme, et donna tout à coup la preuve de la plus haute puissance humaine. Horrible et majestueux spectacle. Sa physionomie présenta un phénomène qui ne peut être comparé qu'à celui de la chaudière, pleine de cette vapeur fumeuse qui soulèverait des montagnes, et que dissout en un clin d'œil une goutte d'eau froide. La goutte d'eau qui froidit sa rage fut une réflexion rapide comme un éclair. Il se mit à sourire et regarda sa perruque. « « Tu n'es pas dans tes jours de politesse, » dit-il au chef de la police de sûreté. Et il tendit ses mains aux gendarmes en les appelant par un signe de tête. « Messieurs les gendarmes, mettez-moi les menottes ou les poussettes. Je prends à témoin les personnes présentes que je ne résiste pas. » Un murmure admiratif, arraché par la promptitude avec laquelle la lave et le feu sortirent et rentrèrent dans ce volcan humain, retentit dans la salle. « Ça te la coupe, monsieur l'enfonceur !» reprit le forçat en regardant le célèbre directeur de la police judiciaire. « Allons, qu'on se déshabille, » lui dit l'homme de la petite rue Sainte-Anne, d'un air plein de mépris. « Pourquoi ?» dit Colin. « Il y a des dames. Je ne nie rien et je me rends. » Il fit une pause et regarda l'assemblée comme un orateur qui va dire des choses surprenantes. « Écrivez, papa Lachapelle, » dit-il en s'adressant à un petit vieillard en cheveux blancs qui s'était assis au bout de la table après avoir tiré d'un portefeuille le procès-verbal de l'arrestation. « Je reconnais être Jacques Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné à 20 ans de fer, et je viens de prouver que je n'ai pas volé mon surnom. Si j'avais seulement levé la main, dit-il au pensionnaire, ces trois mouchards-là répandaient tout mon résiné sur le trimard domestique de maman Vauquet. Ces drôles se mêlent de combiner des guet-apens. » Madame Vauquet se trouva mal en entendant ces mots. « Mon Dieu, c'est à en faire une maladie. Moi qui étais hier à la gaieté avec lui, » dit-elle à Sylvie. « De la philosophie, maman, » reprit Colin. « Est-ce un malheur d'être allé dans ma loge hier à la gaieté ? » s'écria-t-il. « Êtes-vous meilleur que nous ? Nous avons moins d'infamie sur l'épaule que vous n'en avez dans le cœur, membre flasque d'une société gangrenée. Le meilleur d'entre vous ne me résistait pas. » Ses yeux s'arrêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un sourire gracieux qui contrastait singulièrement avec la rude expression de sa figure. « Notre marché va toujours, mon ange, en cas d'acceptation toutefois. Vous savez ?» Il chanta « Ma fanchette est charmante » dans sa simplicité. « Ne soyez pas embarrassé, » reprit-il, « je sais faire mes recouvrements. L'on me craint trop pour me flouer, moi. » Le bagne, avec ses mœurs et son langage, avec ses brusques transitions du plaisant à l'horrible, son épouvantable grandeur, sa familiarité, sa bassesse, fut tout à coup représenté dans cette interpellation et par cet homme qui ne fut plus un homme, mais le type de toute une nation dégénérée, d'un peuple sauvage et logique, brutal et souple. En un moment, Colin devint un poème infernal où se peignirent tous les sentiments humains, moins un seul, celui du repentir. Son regard était celui de l'archange déchu qui veut toujours la guerre. Rastignac baissa les yeux en acceptant ce cousinage criminel comme une expiation de ses mauvaises pensées. « Qui m'a trahi ?» dit Colin en promenant son terrible regard sur l'assemblée. Et l'arrêtant sur Mademoiselle Michonneau, « C'est toi, » lui dit-il, « vieille cagnotte, tu m'as donné un faux coup de sang, curieuse. En disant deux mots, je pourrais te faire scier le cou dans 8 jours. Je te pardonne, je suis chrétien. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui m'as vendu. Mais qui ? Ah ! Ah, vous fouillez là-haut, s'écria-t-il en entendant les officiers de la police judiciaire qui ouvraient ses armoires et s'emparaient de ses effets. Dénichez les oiseaux, envolés d'hier, et vous ne saurez rien. Mes livres de commerce sont là, dit-il en se frappant le front. Je sais qui m'a vendu maintenant. Ce ne peut être que ce gredin de fil de soie. Pas vrai, père l'empoigneur, dit-il au chef de police. Ça s'accorde trop bien avec le séjour de nos billets de banque là-haut. Plus rien, mes petits mouchards. Quant à fil de soie, il sera terré sous 15 jours, lors même que vous le feriez garder par toute votre gendarmerie. « Que lui avez-vous donné à cette michonnette ? » dit-il aux gens de la police. « Quelques milliers d'écus ? Je valais mieux que ça, Ninon Carrier, Pompadour en loque, Vénus du Père Lachaise. Si tu m'avais prévenu, tu aurais eu 6 000 francs. Ah, tu ne t'en doutais pas, vieille vendeuse de chair, sans quoi j'aurais eu la préférence. Oui, je les aurais donnés pour éviter un voyage qui me contrarie et qui me fait perdre de l'argent, » disait-il pendant qu'on lui mettait les menottes. « Ces gens-là vont se faire un plaisir de me traîner un temps infini pour m'autolondrer. S'ils m'envoyaient tout de suite au bagne, je serais bientôt rendu à mes occupations, malgré nos petits badauds du quai des Orfèvres. Là-bas, ils vont tous se mettre l'âme à l'envers pour faire évader leur général, ce bon Trompe-la-Mort. Y a-t-il un de vous qui soit comme moi riche de plus de 10 000 frères, prêts à tout faire pour vous ? » demanda-t-il avec fierté. « Il y a du bon là, » dit-il en se frappant le cœur. « Je n'ai jamais trahi personne. » « Tiens, cagnotte, voilà, » dit-il en s'adressant à la vieille fille. « Ils me regardent avec terreur, mais toi, tu leur soulèves le cœur de dégoût. Ramasse ton lot. » Il fit une pause en contemplant les pensionnaires.
« Êtes-vous bêtes, vous autres? N'avez-vous jamais vu de forçat? Un forçat de la trempe de Colin, ici présent, est un homme moins lâche que les autres, et qui proteste contre les profondes déceptions du contrat social, comme dit Jean-Jacques, dont je me glorifie d'être l'élève. Enfin, je suis seul contre le gouvernement avec son tas de tribunaux, de gendarmes, de budgets, et je les roule.
« Diantre, dit le peintre, il est fameusement beau à dessiner.
« Dis-moi, menin de Monseigneur le Bourreau, gouverneur de la veuve, nom plein de terribles poésies que les forçats donnent à la guillotine, ajouta-t-il en se tournant vers le chef de la police de sûreté. « Sois bon enfant, dis-moi si c'est Fil de Soie qui m'a vendu. Je ne voudrais pas qu'il payât pour un autre, ce ne serait pas juste. »
En ce moment, les agents qui avaient tout ouvert et tout inventorié chez lui rentrèrent et parlèrent à voix basse au chef de l'expédition. Le procès-verbal était fini.
« Messieurs, dit Colin en s'adressant aux pensionnaires, ils vont m'emmener. Vous avez été tous très aimables pour moi pendant mon séjour ici, j'en aurai de la reconnaissance. Recevez mes adieux. Vous me permettrez de vous envoyer des figues de Provence. »
Il fit quelques pas et se retourna pour regarder Rastignac.
« Adieu, Eugène, dit-il d'une voix douce et triste qui contrastait singulièrement avec le ton brusque de ses discours. « Si tu étais gêné, je t'ai laissé un ami dévoué. »
Malgré ses menottes, il put se mettre en garde, fit un appel de maître d'armes, cria « Une, deux !» et se fendit.
« En cas de malheur, adresse-toi là. Homme et argent, tu peux disposer de tout. »
Ce singulier personnage mit assez de bouffonnerie dans ses dernières paroles pour qu'elles ne pussent être comprises que de Rastignac et de lui. Quand la maison fut évacuée par les gendarmes, par les soldats et par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés.
« Eh bien, dit-elle, c'était un bonhomme tout de même. »
Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois Mademoiselle Michonneau grêle, sèche et froide autant qu'une momie, tapie près du poêle, les yeux baissés, comme si elle eût craint que l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez forte pour cacher l'expression de ses regards. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. Un murmure qui, par sa parfaite unité de son, trahissait un dégoût unanime, retentit sourdement. Mademoiselle Michonneau l'entendit et resta. Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à demi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins Poiret, approuva la proposition de l'étudiant en médecine qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec Mademoiselle Michonneau, lui dit-il, parlez-lui, faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller à l'instant même. »«
À l'instant même ?» répéta Poiret étonné.
Puis il vint auprès de la vieille et lui dit quelques mots à l'oreille.
« Mais mon terme est payé, je suis ici pour mon argent comme tout le monde, » dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires.
« Que cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, » dit Rastignac.
« Monsieur soutient Colin, » répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. « Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. »
À ce mot, Eugène bondit comme pour se ruer sur la vieille fille et l'étrangler. Ce regard, dont il comprit les perfidies, venait de jeter une horrible lumière dans son âme.
« Laissez-la donc !» s'écrièrent les pensionnaires.
Rastignac se croisa les bras et resta muet.
« Finissons-en avec Mademoiselle Judas, » dit le peintre en s'adressant à Madame Vauquet.
« Madame, si vous ne mettez pas à la porte la Michonneau, nous quittons tous votre baraque, et nous dirons partout qu'il ne s'y trouve que des espions et des forçats. Dans le cas contraire, nous nous tairons tous sur cet événement qui, au bout du compte, pourrait arriver dans les meilleures sociétés, jusqu'à ce qu'on marque les galériens au front et qu'on leur défende de se déguiser en bourgeois de Paris et de se faire aussi bêtement farceurs qu'ils le sont tous. » À ce discours, Madame Vauquet retrouva miraculeusement la santé, se redressa, se croisa les bras, ouvrit ses yeux clairs et sans apparence de larmes.
« Mais, mon cher monsieur, vous voulez donc la ruine de ma maison ?»«
Voilà, monsieur, Vautrin. Oh, mon Dieu !» se dit-elle en s'interrompant elle-même. « Je ne puis pas m'empêcher de l'appeler par son nom d'honnête homme. »«
Voilà, reprit-elle, un appartement vide, et vous voulez que j'en ai deux de plus à louer, dans une saison où tout le monde est casé ?»«
Messieurs, prenons nos chapeaux et allons dîner place Sorbonne, chez Flicoteaux, » dit Bianchon. Madame Vauquet calcula d'un seul coup d'œil le parti le plus avantageux et roula jusqu'à Mademoiselle Michonneau.
« Allons, ma chère petite belle, vous ne voulez pas la mort de mon établissement, hein ?
Vous voyez à quelle extrémité me réduisent ces messieurs. Remontez dans votre chambre pour ce soir. »
Du tout !» crièrent les pensionnaires. « Nous voulons qu'elle sorte à l'instant. »
« Mais elle n'a pas dîné, cette pauvre demoiselle !» dit Poiret d'un ton piteux.
« Elle ira dîner où elle voudra !» crièrent plusieurs voix. « À la porte, la moucharde ! À la porte, les mouchards !»«
Messieurs !» s'écria Poiret, qui s'éleva tout à coup à la hauteur du courage que l'amour prête au bélier.
« Respectez une personne du sexe !»«
Les mouchards ne sont d'aucun sexe !» dit le peintre.
« Fameux sexorama ! À la porte, Orama !
Messieurs, ceci est indécent. Quand on revoit les gens, on doit y mettre des formes. Nous avons payé, nous restons !» dit Poiret en se couvrant de sa casquette et se plaçant sur une chaise à côté de Mademoiselle Michonneau que prêchait Madame Vauquet.
« Méchant !» lui dit le peintre d'un air comique. « Petit méchant, va !»«
Allons, si vous ne vous en allez pas, nous nous en allons, nous autres !» dit Bianchon.
Et les pensionnaires firent en masse un mouvement vers le salon.
« Mademoiselle, que voulez-vous donc ? » s'écria Madame Vauquet. « Je suis ruinée. Vous ne pouvez pas rester. Ils vont en venir à des actes de violence. »
Mademoiselle Michonneau se leva.
« Elle s'en ira ? Elle ne s'en ira pas. Elle s'en ira ? Elle ne s'en ira pas. »
Ces mots dits alternativement et l'hostilité des propos qui commençaient à se tenir sur elle contraignirent Mademoiselle Michonneau à partir, après quelques stipulations faites à voix basse avec l'hôtesse.
« Je vais chez Madame Buneau, » dit-elle d'un air menaçant.
« Allez où vous voudrez, mademoiselle, » dit Madame Vauquet, qui vit une cruelle injure dans le choix qu'elle faisait d'une maison avec laquelle elle rivalisait et qui lui était conséquemment odieuse.
« Allez chez la Buneau. Vous aurez du vin à faire danser les chèvres et des plats achetés chez les regrattiers. »
Les pensionnaires se mirent sur deux files dans le plus grand silence. Poiret regarda si tendrement Mademoiselle Michonneau, il se montra si naïvement indécis, sans savoir s'il devait la suivre ou rester, que les pensionnaires, heureux du départ de Mademoiselle Michonneau, se mirent à rire en se regardant.
« Psst, 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 Poiret !» lui cria le peintre. « Allons, houp là, houp !»
L'employé au muséum se mit à chanter comiquement ce début d'une romance connue, partant pour la Syrie, le jeune et beau Dunois.
« Allez donc, vous en mourrez d'envie. Trait sua quemque voluptas, » dit Bianchon.
« Chacun suit sa particulière, traduction libre de Virgile, » dit le répétiteur. Mademoiselle Michonneau ayant fait le geste de prendre le bras de Poiret en le regardant, il ne put résister à cet appel et vint donner son appui à la vieille. Des applaudissements éclatèrent et il y eut une explosion de rire.
« Bravo Poiret, ce vieux Poiret, Apollon Poiret, Mars Poiret, courageux Poiret !»
En ce moment, un commissionnaire entra, remit une lettre à Madame Vauquet qui se laissa couler sur sa chaise après l'avoir lue.
« Mais il n'y a plus qu'à brûler ma maison. Le tonnerre y tombe. Le fils Taillefer est mort à 3 heures. Je suis bien puni d'avoir souhaité du bien à ces dames au détriment de ce pauvre jeune homme. Madame Couture et Victorine me redemandent leurs effets et vont demeurer chez son père. Monsieur Taillefer permet à sa fille de garder la veuve Couture comme demoiselle de compagnie. 4 appartements vacants, 5 pensionnaires de moins. »
Elle s'assit et parut près de pleurer.
« Le malheur est entré chez moi, » s'écria-t-elle.
Le roulement d'une voiture qui s'arrêtait retentit tout à coup dans la rue.
« Encore quelques chapes-chutes, » dit Sylvie.
Goriot montra soudain une physionomie brillante et colorée de bonheur qui pouvait faire croire à sa régénération.
« Goriot en fiacre !» dirent les pensionnaires. « La fin du monde arrive !»
Le bonhomme alla droit à Eugène, qui restait pensif dans un coin, et le prit par le bras.
« Venez !» lui dit-il d'un air joyeux.
« Vous ne savez donc pas ce qui se passe ?» lui dit Eugène. « Vautrin était un forçat que l'on vient d'arrêter, et le fils Taillefer est mort. »«
Eh bien, qu'est-ce que ça nous fait ?» répondit le père Goriot.
« Je dîne avec ma fille, chez vous, entendez-vous ?
Elle vous attend. Venez !»
Il tira si violemment Rastignac par le bras qu'il le fit marcher de force et parut l'enlever comme si c'eût été sa maîtresse.
« Dînons !» cria le peintre.
En un moment, chacun prit sa chaise et s'attabla.
« Par exemple, dit la grosse Sylvie, tout est malheur aujourd'hui. Mon haricot de mouton s'est attaché. Bon, vous le mangerez brûlé, tant pire. »
Madame Vauquet n'eut pas le courage de dire un mot en ne voyant que 10 personnes au lieu de 18 autour de sa table. Mais chacun tenta de la consoler et de l'égayer. Si d'abord les externes s'entretinrent de Vautrin et des événements de la journée, ils obéirent bientôt à l'allure serpentine de leur conversation et se mirent à parler des duels, du bagne, de la justice, des lois à refaire, des prisons. Puis ils se trouvèrent à 1000 lieues de Jacques Collin, de Victorine et de son frère. Quoiqu'ils ne fussent que 10, ils crièrent comme 20 et semblaient être plus nombreux qu'à l'ordinaire. Ce fut toute la différence qu'il y eut entre ce dîner et celui de la veille.
l'insouciance habituelle de ce monde égoïste qui, le lendemain, devait avoir dans les événements quotidiens de Paris une autre proie à dévorer, reprit le dessus. Et Madame Vauquer elle-même se laissa calmer par l'espérance qui emprunta la voix de la grosse Sylvie. Cette journée devait être jusqu'au soir une fantasmagorie pour Eugène, qui, malgré la force de son caractère et la bonté de sa tête, ne savait comment classer ses idées quand il se trouva dans le fiacre à côté du père Goriot, dont les discours trahissaient une joie inaccoutumée et retentissaient à son oreille après tant d'émotions comme les paroles que nous entendons en rêve. « C'est fini de ce matin. Nous dînons tous les trois ensemble. Ensemble, comprenez-vous. Voici 4 ans que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite Delphine. Je vais la voir à moi pendant toute une soirée. Nous sommes chez vous depuis ce matin. J'ai travaillé comme à manœuvre, à Biba. J'ai aidé à porter les meubles. Ah, vous ne savez pas comme elle est gentille. À table, elle s'occupera de moi. Tenez, papa, mangez donc de cela, c'est bon. Et alors, je ne peux pas manger. Oh, y a-t-il longtemps que je n'ai été tranquille avec elle comme nous allons l'être ? Mais, lui dit Eugène, aujourd'hui, le monde est donc renversé. Renversé ? Dit le père Goriot. Mais à aucune époque, le monde n'a si bien été. Je ne vois que des figures gaies dans les rues, des gens qui se donnent des poignées de main et qui s'embrassent, des gens heureux, comme s'ils allaient tous dîner chez leur fille. Ils gobichonnaient un bon petit dîner qu'elle a commandé devant moi au chef du café des Anglais. Mais bah, près d'elle, le chicotin serait doux comme miel. Je crois revenir à la vie, dit Eugène. Mais marchez donc, cocher, cria le père Goriot en ouvrant la glace de devant. Allez donc plus vite. Je vous donnerai 100 sous pour boire si vous me menez en 10 minutes là où vous savez. En entendant cette promesse, le cocher traversa Paris avec la rapidité de l'éclair. « Il ne va pas, ce cocher, » disait le père Goriot. « Mais où me conduisez-vous donc ?» lui demanda Rastignac. « Chez vous, » dit le père Goriot. La voiture s'arrêta, rue d'Artois. Le bonhomme descendit le premier et jeta 10 francs au cocher avec la prodigalité d'un homme veuf qui, dans le paroxysme de son plaisir, ne prend garde à rien. « Allons, montons, » dit-il à Rastignac en lui faisant traverser une cour, et le conduisant à la porte d'un appartement situé au 3e étage, sur le derrière d'une maison neuve et de belle apparence. Le père Goriot n'eut pas besoin de sonner. Thérèse, la femme de chambre de Madame de Nucingen, leur ouvrit la porte. Eugène se vit dans un délicieux appartement de garçon, composé d'une antichambre, d'un petit salon, d'une chambre à coucher et d'un cabinet ayant vue sur un jardin. Dans le petit salon, dont l'ameublement et le décor pouvaient soutenir la comparaison avec ce qu'il y avait de plus joli, de plus gracieux, il aperçut à la lumière des bougies Delphine, qui se leva d'une causeuse au coin du feu, mit son écran sur la cheminée et lui dit avec une intonation de voix chargée de tendresse « Il a donc fallu vous aller chercher, monsieur qui ne comprenait rien. » Thérèse sortit. L'étudiant prit Delphine dans ses bras, la serra vivement et pleura de joie. Ce dernier contraste entre ce qu'il voyait et ce qu'il venait de voir, dans un jour où tant d'irritation avait fatigué son cœur et sa tête, détermina chez Rastignac un accès de sensibilité nerveuse. « Je savais bien, moi, qu'il t'aimait, » dit tout bas le père Goriot à sa fille, pendant que Eugène, abattu, gisait sur la causeuse sans pouvoir prononcer une parole, ni se rendre compte encore de la manière dont ce dernier coup de baguette avait été frappé. « Mais venez donc voir, » lui dit Madame de Nucingen en le prenant par la main, et l'emmenant dans une chambre dont les tapis, les meubles et les moindres détails lui rappelèrent en de plus petites proportions celle de Delphine. « Il y manque un lit, » dit Rastignac. « Oui, monsieur, » dit-elle en rougissant et lui serrant la main. Eugène la regarda et comprit, jeune encore, tout ce qu'il y avait de pudeur vraie dans un cœur de femme aimante. « Vous êtes une de ces créatures que l'on doit adorer toujours, » lui dit-il à l'oreille. « Oui, j'ose vous le dire, puisque nous nous comprenons si bien. Plus vif et sincère est l'amour, plus il doit être voilé, mystérieux. Ne donnons notre secret à personne. » « Oh, je ne serai pas quelqu'un, moi, » dit le père Goriot en grognant. « Vous savez bien que vous êtes nous, vous. Ah, voilà ce que je voulais. Vous ne ferez pas attention à moi, n'est-ce pas ? J'irai, je viendrai, comme un bon esprit qui est partout et qu'on sait être là sans le voir. Eh bien, Delphinette, Ninette, Dédèle, n'ai-je pas eu raison de te dire « Il y a un joli appartement rue d'Artois, meublons-le pour lui. Tu ne voulais pas ? Ah, c'est moi qui suis l'auteur de ta joie, comme je suis l'auteur de tes jours. Les pères doivent toujours donner pour être heureux. » « Donner toujours. C'est ce qui fait qu'on est père. »« Comment ?» dit Eugène. « Oui, elle ne voulait pas. Elle avait peur qu'on ne dise des bêtises, comme si le monde valait le bonheur. Mais toutes les femmes rêvent de faire ce qu'elle fait. » Le père Goriot parlait tout seul.
Madame de Nucingen avait emmené Rastignac dans le cabinet, où le bruit d'un baiser retentit, quelque légèrement qu'il fût pris. Cette pièce était en rapport avec l'élégance de l'appartement, dans lequel d'ailleurs rien ne manquait. « A-t-on bien deviné vos vœux ? » dit-elle en revenant dans le salon pour se mettre à table. « Oui, dit-il, trop bien. Hélas, ce luxe si complet, ces beaux rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie jeune, élégante, je les sens trop pour ne pas les mériter, mais je ne puis les accepter de vous. Et je suis trop pauvre encore pour... Ah ! Vous me résistez déjà !» dit-elle d'un petit air d'autorité railleuse, en faisant une de ces jolies moues que font les femmes quand elles veulent se moquer de quelques scrupules pour le mieux dissiper. Eugène s'était trop solennellement interrogé pendant cette journée, et l'arrestation de Vautrin en lui montrant la profondeur de l'abîme dans lequel il avait failli rouler venait de trop bien corroborer ses sentiments nobles et sa délicatesse pour qu'il cédât à cette caressante réfutation de ses idées généreuses. Une profonde tristesse s'empara de lui. « Comment, dit Madame de Nucingen, vous refuseriez ? Savez-vous ce que signifie un refus semblable ? Vous doutez de l'avenir ? Vous n'osez pas vous lier à moi ? Vous avez donc peur de trahir mon affection ? Si vous m'aimez, si je vous aime, pourquoi reculez-vous devant d'aussi minces obligations ? Si vous connaissiez le plaisir que j'ai eu à m'occuper de tout ce ménage de garçons, vous n'hésiteriez pas et vous me demanderiez pardon. J'avais de l'argent à vous et je l'ai bien employé, voilà tout. Vous croyez être grand et vous êtes petit. Vous demandez bien plus. Ah, dit-elle en saisissant un regard de passion chez Eugène. Et vous faites des façons pour des niaiseries. Si vous ne m'aimez point, ah oui, n'acceptez pas. Mon sort est dans un mot, parlez. Mais mon père, dites-lui donc quelque bonne raison, ajouta-t-elle en se tournant vers son père après une pause. Croit-il que je ne sois pas moins chatouilleuse que lui sur notre honneur ? Le père Goriot avait le sourire fixe d'un teriyaki. En voyant, en écoutant cette jolie querelle. Enfant, vous êtes à l'entrée de la vie, reprit-elle en saisissant la main de Gênes. Vous trouvez une barrière insurmontable pour beaucoup de gens. Une main de femme vous l'ouvre et vous reculez. Mais vous réussirez. Vous ferez une brillante fortune. Le succès est écrit sur votre beau front. Ne pourrez-vous pas alors me rendre ce que je vous prête aujourd'hui ? Autrefois, les dames ne donnaient-elles pas à leurs chevaliers des armures, des épées, des casques, des cottes de mailles, des chevaux ? Afin qu'ils puissent aller combattre en leur nom dans les tournois. Eh bien, Eugène, les choses que je vous offre sont les armes de l'époque, des outils nécessaires à qui veut être quelque chose. Il est joli, le grenier où vous êtes, s'il ressemble à la chambre de papa. Voyons, nous ne dînerons donc pas. Voulez-vous m'attrister ? Répondez donc, dit-elle en lui secouant la main. Mon Dieu, papa, décide-le donc ou je sors et ne le revois jamais. Je vais vous décider, dit le père Goriot en sortant de son extase. Mon cher monsieur Eugène, vous allez emprunter de l'argent à des juifs, n'est-ce pas ? Il le faut bien, dit-il. Bon, je vous tiens, reprit le bonhomme en tirant un mauvais portefeuille en cuir tout usé. Je me suis fait juif, j'ai payé toutes les factures, les voici. Vous ne devez pas un centime pour tout ce qui se trouve ici. Ça ne fait pas une grosse somme, tout au plus 5 000 francs. Je vous les prête, moi. Vous ne me refuserez pas, je ne suis pas une femme. Vous m'en ferez une reconnaissance sur un chiffon de papier et vous me les rendrez plus tard. Quelques pleurs roulèrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de Delphine, qui se regardèrent avec surprise. Rastignac tendit la main au bonhomme et la lui serra. « Eh bien quoi, n'êtes-vous pas mes enfants ? » dit Goriot. « Mais mon pauvre père, dit Madame de Nucingen, comment avez-vous donc fait ? » ?»« Ah, nous y voilà, répondit-il. Quand je t'ai eu décidé à le mettre près de toi, que je t'ai vu achetant des choses comme pour une mariée, je me suis dit, elle va se trouver dans l'embarras. L'avoué prétend que le procès à intenter à ton mari pour lui faire rendre ta fortune durera plus de 6 mois. Bon, j'ai vendu mes 1350 livres de rente perpétuelle. Je me suis fait, avec 15 000 francs, 1 200 francs de rente viagère, bien hypothéquée, et j'ai payé vos marchands avec le reste du capital, mes enfants. Moi, j'ai là-haut une chambre de 50 écus par an. Je peux vivre comme un prince avec 40 sous par jour, et j'aurai encore du reste. Je n'use rien, il ne me faut presque pas d'habits. Voilà 15 jours que je ris dans ma barbe. En me disant, vont-ils être heureux ? Eh bien, n'êtes-vous pas heureux ? Oh, papa, papa, dit Madame de Nucingen en sautant sur son père qui l'a reçu sur ses genoux. Elle le couvrit de baisers, lui caressa les joues avec ses cheveux blonds et versa des pleurs sur ce vieux visage épanoui, brillant. Cher père, vous êtes un père. Non, il n'existe pas deux pères comme vous sous le ciel. Eugène vous aimait bien déjà. Que sera-ce maintenant ?
Mais, mes enfants, dit le père Goriot, qui depuis 10 ans n'avait pas senti le cœur de sa fille battre sur le sien, mais, Delphinette, tu veux donc me faire mourir de joie? Mon pauvre cœur se brise. Allez, monsieur Eugène, nous sommes déjà quittes. Et le vieillard serrait sa fille par une étreinte si sauvage, si délirante, qu'elle dit « Ah, tu me fais mal !»« Je t'ai fait mal ?» dit-il en pâlissant. Il la regarda d'un air surhumain de douleur. Pour bien peindre la physionomie de ce Christ de la paternité, il faudrait aller chercher des comparaisons dans les images que les princes de la palette ont inventées pour peindre la passion soufferte au bénéfice des mondes par le sauveur des hommes. Le père Goriot baisa bien doucement la ceinture que ses doigts avaient trop pressée. « Non, non, je ne t'ai pas fait mal. »« Non, » reprit-il en la questionnant par un sourire. « C'est toi qui m'as fait mal avec ton cri. »« Ça coûte plus cher, » dit-il à l'oreille de sa fille en la lui baisant avec précaution. « Mais il faut l'attraper, sans quoi il se fâcherait. » Eugène était pétrifié par l'inépuisable dévouement de cet homme et le contemplait en exprimant cette naïve admiration qui, au jeune âge, est de la foi. « Je serais digne de tout cela, » s'écria-t-il. « Oh, mon Eugène, c'est beau ce que vous venez de dire là. » Et madame de Nucingen baisa l'étudiant au front. « Il a refusé pour toi, mademoiselle Taillefer, et ses millions, » dit le père Goriot. « Oui, elle vous aimait, la petite. Et son frère mort la voilà riche comme Crésus. »« Ah, pourquoi le dire ?» s'écria Rastignac. « Eugène, » lui dit Delphine à l'oreille, « maintenant j'ai un regret pour ce soir. Alors je vous aimerais bien, moi, et pour toujours. » Voilà la plus belle journée que j'ai eue depuis vos mariages, s'écria le père Goriot. Le bon Dieu peut me faire souffrir tant qu'il lui plaira, pourvu que ce ne soit pas par vous. Je me dirai, en février de cette année, j'ai été pendant un moment plus heureux que les hommes ne peuvent l'être pendant toute leur vie. Regarde-moi, Fifine, dit-il à sa fille. Elle est bien belle, n'est-ce pas? Dites-moi donc, avez-vous rencontré beaucoup de femmes qui aient ces jolies couleurs et sa petite fossette? Non, pas vrai. Eh bien, c'est moi qui ai fait cet amour de femme. Désormais, en se trouvant heureuse par vous, elle deviendra 1000 fois mieux. Je puis aller en enfer, mon voisin, dit-il. S'il vous faut ma part de paradis, je vous la donne. Mangeons, mangeons, reprit-il en ne sachant plus ce qu'il disait. Tout est à nous, ce pauvre père. Si tu savais, mon enfant, dit-il en se levant et allant à elle, lui prenant la tête et la baisant au milieu de ses nattes de cheveux, combien tu peux me rendre heureux à bon marché. Viens me voir quelquefois. Je serai là-haut, tu n'auras qu'un pas à faire. « Promets-le-moi, dis. »« Oui, cher père. »« Dis encore. »« Oui, mon bon père. »« Tais-toi, je te le ferai dire 100 fois si je m'écoutais. »« Dis non. » La soirée tout entière fut employée en enfantillage, et le père Goriot ne se montra pas le moins fou des trois. Il se couchait aux pieds de sa fille pour les baiser. Il la regardait longtemps dans les yeux. Il frottait sa tête contre sa robe. Enfin, il faisait des folies comme en aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre. « Voyez-vous, dit Delphine à Eugène, quand mon père est avec nous, il faut être tout à lui. Ce sera pourtant bien gênant quelquefois. » Eugène, qui s'était senti déjà plusieurs fois des mouvements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot qui renfermait le principe de toutes les ingratitudes. « Et quand l'appartement sera-t-il fini ? » dit Eugène en regardant autour de la chambre. « Il faudra donc nous quitter ce soir. »« Oui, mais demain, vous viendrez dîner avec moi, » dit-elle d'un air fin. « Demain est un jour d'Italien. » « J'irai au parterre, moi, » dit le père Goriot. Il était minuit. La voiture de madame de Nucingen attendait. Le père Goriot et l'étudiant retournèrent à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un croissant enthousiasme qui produisit un curieux combat d'expression entre ces deux violentes passions. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du père, qu'aucun intérêt personnel n'entachait, écrasait le sien par sa persistance et par son étendue. L'idole était toujours pure et belle pour le père, et son adoration s'accroissait de tout le passé comme de l'avenir. Ils trouvèrent madame Vauquer seule au coin de son poêle, entre Sylvie et Christophe. La vieille hôtesse était là comme Marius sur les ruines de Carthage. Elle attendait les deux seuls pensionnaires qui lui restassent, en se désolant avec Sylvie. Quoique Lord Byron ait prêté d'assez belles lamentations aux tasses, elles sont bien loin de la profonde vérité de celle qui échappait à madame Vauquer. Il n'y aura donc que 3 tasses de café à faire demain matin, Sylvie. Hein, ma maison déserte. N'est-ce pas à fendre le cœur? Qu'est-ce que la vie sans mes pensionnaires? Rien du tout. Voilà ma maison démeublée de ces hommes. La vie est dans les meubles. Qu'ai-je fait au ciel pour m'être attiré tous ces désastres? Nos provisions de haricots et de pommes de terre sont faites pour 20 personnes. La police chez moi.
Nous allons donc ne manger que des pommes de terre. Je renverrai donc Christophe. »
Le Savoyard, qui dormait, se réveilla soudain et dit « Madame ?»«
Pauvre garçon, c'est comme un dogue, » dit Sylvie.
« Une saison morte, chacun s'est casé. D'où me tombera-t-il des pensionnaires ? J'en perdrai la tête.
Et cette Sibylle de Michonneau qui m'enlève Poiret. Qu'est-ce qu'elle lui faisait donc pour s'être attaché cet homme-là qui la suit comme un toutou ?»«
Ah, dame, » fit Sylvie en hochant la tête, « ces vieilles filles, ça connaît les rubriques. »
« Ce pauvre monsieur Vautrin, dont ils ont fait un forçat, » reprit la veuve. « Eh bien, Sylvie, c'est plus fort que moi ?
Je ne le crois pas encore.
Un homme gai comme ça, qui prenait du Gloria pour 15 francs par mois et qui payait rubis sur l'ongle ?»«
Et qui était généreux, » dit Christophe.
« Il y a erreur, » dit Sylvie.
« Mais non, il a avoué lui-même, » reprit Madame Vauquet.
« Et dire que toutes ces choses-là sont arrivées chez moi, dans un quartier où il ne passe pas un chat. Foi d'honnête femme, je rêve.
Car vois-tu, nous avons vu Louis XVI avoir son accident, nous avons vu tomber l'empereur, nous l'avons vu revenir et retomber, tout cela c'était dans l'ordre des choses possibles.
Tandis qu'il n'y a point de chance contre des pensions bourgeoises. On peut se passer de roi, mais il faut toujours qu'on mange.
Et quand une honnête femme, née de Conflans, donne à dîner avec toute bonne chose, mais à moins que la fin du monde n'arrive,
mais c'est ça, c'est la fin du monde.
Et pensez que Mademoiselle Michonneau qui vous fait tout ce tort va recevoir à ce qu'on dit 1000 écus de rente, s'écria Sylvie.
Ne m'en parle pas, ce n'est qu'une scélérate, dit Madame Vauquet. Et elle va chez la Buneau, par-dessus le marché.
Mais elle est capable de tout. Elle a dû faire des horreurs, elle a tué, volé dans son temps. Elle devait aller au bagne à la place de ce pauvre cher homme.
En ce moment, Eugène et le père Goriot sonnèrent.
Ah, voilà mes deux fidèles, dit la veuve en soupirant.
Les deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des désastres de la pension bourgeoise, annoncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la Chaussée d'Antin.
« Oh, Sylvie, dit la veuve, voilà mon dernier atout. Vous m'avez donné le coup de la mort, messieurs. Ça m'a frappé dans l'estomac. J'ai une barre, là. Voilà une journée qui me met 10 ans de plus sur la tête. Je deviendrai folle, ma parole d'honneur. Que faire des haricots ?
Ah, bien, si je suis seule ici, tu t'en iras demain, Christophe. Adieu, messieurs. Bonne nuit.
Qu'a-t-elle donc ? Demanda Eugène à Sylvie.
La dame, voilà tout le monde parti par suite des affaires. Ça lui a troublé la tête. Allons, je l'entends qui pleure. Ça lui fera du bien de chigner. Voilà la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que je suis à son service.
Le lendemain, Madame Vauquet s'était, suivant son expression, raisonnée. Si elle parut affligée comme une femme qui avait perdu tous ses pensionnaires et dont la vie était bouleversée, elle avait toute sa tête et montra ce qu'était la vraie douleur, une douleur profonde, la douleur causée par l'intérêt froissé, par les habitudes rompues. Certes, le regard qu'un amant jette sur les lieux habités par sa maîtresse en les quittant n'est pas plus triste que ne le fut celui de Madame Vauquet sur sa table vide. Eugène la consola en lui disant que Bianchon, dont l'internat finissait dans quelques jours, viendrait sans doute le remplacer, que l'employé du muséum avait souvent manifesté le désir d'avoir l'appartement de Madame Couture, et que dans peu de jours elle aurait remonté son personnel.
Dieu vous entende, mon cher monsieur, mais le malheur est ici. Avant 10 jours, la mort y viendra, vous verrez,
lui dit-elle en jetant un regard lugubre sur la salle à manger.
« Qui prendra-t-elle ? » ?»«
Il fait bon déménager, » dit tout bas Eugène au père Goriot.
« Madame, » dit Sylvie en accourant effarée, « voici 3 jours que je n'ai vu Mistigris. Ah, bien, si mon chat est mort, s'il nous a quittés, je... »
La pauvre veuve n'acheva pas, elle joignit les mains et se renversa sur le dos de son fauteuil, accablée par ce terrible pronostic. Vers midi, heure à laquelle les facteurs arrivaient dans le quartier du Panthéon, Eugène reçut une lettre élégamment enveloppée, cachetée aux armes de Beauséant. Elle contenait une invitation adressée à monsieur et à madame de Nucingen pour le grand bal annoncé depuis un mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. À cette invitation était joint un petit mot pour Eugène. « J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments auprès de madame de Nucingen. Je vous envoie l'invitation que vous m'avez demandée et serai charmé de faire la connaissance de la sœur de madame de Restaud. « Amenez-moi donc cette jolie personne, et faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre affection. Vous m'en devez beaucoup en retour de celle que je vous porte. » Vicomtesse de Beauséant. Mais, se dit Eugène en relisant ce billet, Madame de Beauséant me dit assez clairement qu'elle ne veut pas du baron de Nucingen. Il alla promptement chez Delphine, heureux d'avoir à lui procurer une joie dont il recevrait sans doute le prix. Madame de Nucingen était au bain. Rastignac attendit dans le boudoir,
en butte aux impatiences naturelles à un jeune homme ardent et pressé de prendre possession d'une maîtresse, l'objet de 2 ans de désir. C'est des émotions qui ne se rencontrent pas 2 fois dans la vie des jeunes gens. La première femme, réellement femme, à laquelle s'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se présente à lui dans la splendeur des accompagnements que veut la société parisienne, celle-là n'a jamais de rivale. L'amour à Paris ne ressemble en rien aux autres amours. Ni les hommes ni les femmes n'y sont dupes des montres pavoisées de lieux communs que chacun étale par décence sur ses affections soi-disant désintéressées. En ce pays, une femme ne doit pas satisfaire seulement le cœur et les sens. Elle sait parfaitement qu'elle a de plus grandes obligations à remplir envers les 1000 vanités dont se compose la vie. Là, surtout, l'amour est essentiellement vantard, effronté, gaspilleur, charlatan et fastueux. Si toutes les femmes de la cour de Louis XIV ont envié à Mademoiselle de Lavallière l'entraînement de passion qui fit oublier à ce grand prince que ses manchettes coûtaient chacune 1000 écus quand il les déchira pour faciliter au duc de Vermandois son entrée sur la scène du monde, que peut-on demander au reste de l'humanité ? Soyez jeunes, riches et titrés, soyez mieux encore si vous pouvez, plus vous apporterez de grains d'encens à brûler devant l'idole, plus elle vous sera favorable, si toutefois vous avez une idole. L'amour est une religion et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions. Il passe promptement et passe en gamin qui tient à marquer son passage par des dévastations. Le luxe du sentiment est la poésie des greniers. Sans cette richesse, qui deviendrait l'amour ? S'il est des exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes qui ne se sont point laissées entraîner par les doctrines sociales, qui vivent près de quelques sources aux eaux claires, fugitives mais incessantes, qui, fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage de l'infini, écrit pour elles en toutes choses et qu'elles retrouvent en elles-mêmes, attendent patiemment leurs ailes en plaignant ceux de la terre. Mais Rastignac, semblable à la plupart des jeunes gens qui par avance ont goûté les grandeurs, voulait se présenter tout armé dans la lice du monde. Il en avait épousé la fièvre, et se sentait peut-être la force de le dominer, mais sans connaître ni les moyens ni le but de cette ambition. À défaut d'un amour pur et sacré qui remplit la vie, cette soif du pouvoir peut devenir une belle chose. Il suffit de dépouiller tout intérêt personnel et de se proposer la grandeur d'un pays pour objet. Mais l'étudiant n'était pas encore arrivé au point d'où l'homme peut contempler le cours de la vie et la juger. Jusqu'alors, il n'avait même pas complètement secoué le charme des fraîches et suaves idées qui enveloppent comme d'un feuillage la jeunesse des enfants élevés en province. Il avait continuellement hésité à franchir le Rubicon parisien. Malgré ses ardentes curiosités, il avait toujours conservé quelques arrière-pensées de la vie heureuse que mène le vrai gentilhomme de son château. Néanmoins, ses derniers scrupules avaient disparu la veille quand il s'était vu dans son appartement. En jouissant des avantages matériels de la fortune, comme il jouissait depuis longtemps des avantages moraux que donne la naissance, il avait dépouillé sa peau d'homme de province et s'était doucement établi dans une position d'où il découvrait un bel avenir. Aussi, en attendant Delphine, mollement assis dans ce joli boudoir qui devenait un peu le sien, se voyait-il si loin du Rastignac venu l'année dernière à Paris, quand, le lorgnant par un effet d'optique morale, il se demandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. « Madame est dans sa chambre, » vint lui dire Thérèse, qui le fit tressaillir. Il trouva Delphine étendue sur sa causeuse, au coin du feu, fraîche, reposée. À la voir ainsi étalée sur des flots de mousseline, il était impossible de ne pas la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit vient dans la fleur. « Eh bien, vous voilà, » dit-elle avec émotion. « Devinez ce que je vous apporte, » dit Eugène en s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui baiser la main. Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux mouillés et lui jeta ses bras au cou pour l'attirer à elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. « Et c'est vous, toi, » lui dit-elle à l'oreille, « mais Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons prudents. Vous à qui je dois ce bonheur ? Oui, j'ose appeler cela un bonheur. Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d'amour-propre ? Personne ne m'a voulu présenter dans ce monde. Vous me trouverez peut-être en ce moment petite, frivole, légère comme une parisienne, mais pensez, mon ami, que je suis prête à tout vous sacrifier, et que si je souhaite plus ardemment que jamais d'aller dans le faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. Ne pensez-vous pas, dit Eugène, que Madame de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas voir le baron de Nucingen à son bal ?
« Mais oui, » dit la baronne en rendant la lettre à Eugène. « Ces femmes-là ont le génie de l'impertinence. Mais n'importe, j'irai. Ma sœur doit s'y trouver. Je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, » reprit-elle à voix basse, « elle y va pour dissiper d'affreux soupçons. Vous ne savez pas les bruits qui courent sur elle ? Nucingen est venu me dire ce matin qu'on en parlait hier au cercle sans se gêner. À quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des familles ? Je me suis senti attaqué, blessé dans ma pauvre sœur. Selon certaines personnes, M. de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à 100 000 francs, presque toutes échues, et pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un juif, ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui viennent de Madame de Restaud, la mère. Enfin, depuis 2 jours, il n'est question que de cela. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée et veuille attirer sur elle tous les regards chez Madame de Beauséant, en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être au-dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser. Elle n'a jamais été bonne pour moi, qui lui rendait tant de services, qui avait toujours de l'argent pour elle quand elle n'en avait pas. Mais laissons le monde. Aujourd'hui, je veux être toute heureuse. Rastignac était encore à 1 h du matin chez Madame de Nucingen, qui, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu plein de joies à venir, lui dit avec une expression de mélancolie « Je suis si peureuse, si superstitieuse, donnez à mes pressentiments le nom qu'il vous plaira, que je tremble de payer mon bonheur par quelque affreuse catastrophe. »« Enfant, » dit Eugène. « Ah, c'est moi qui suis l'enfant ce soir, » dit-elle en riant. Eugène revint à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. « Eh bien ?» lui dit le père Goriot quand Rastignac passa devant sa porte. « Eh bien, » répondit Eugène, « je vous dirai tout demain. »« Tout, n'est-ce pas ?» cria le bonhomme. « Couchez-vous. Nous allons commencer demain notre vie heureuse. »
La mort du père.
Le lendemain, Goriot et Rastignac n'attendaient plus que le bon vouloir d'un commissionnaire pour partir de la pension bourgeoise. Quand vers midi, le bruit d'un équipage qui s'arrêtait précisément à la porte de la maison Vauquer retentit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève. Madame de Nucingen descendit de sa voiture, demanda si son père était encore à la pension. Sur la réponse affirmative de Sylvie, elle monta lentement l'escalier. Eugène se trouvait chez lui sans que son voisin le sût. Il avait, en déjeunant, prié le père Goriot d'emporter ses effets, en lui disant qu'il se retrouverait à 4 heures rue d'Artois. Mais pendant que le bonhomme avait été chercher des porteurs, Eugène, ayant promptement répondu à l'appel de l'école, était revenu sans que personne l'eût aperçu, pour compter avec Madame Vauquer, ne voulant pas laisser cette charge à Goriot qui, dans son fanatisme, aurait sans doute payé pour lui. L'hôtesse était sortie, Eugène remonta chez lui pour voir s'il n'y oubliait rien, et s'applaudit d'avoir eu cette pensée en voyant dans le tiroir de sa table l'acceptation en blanc souscrite à Vautrin, qu'il avait insouciamment jetée là le jour où il l'avait acquittée. N'ayant pas de feu, il allait la déchirer en petits morceaux, quand, en reconnaissant la voix de Delphine, il ne voulut faire aucun bruit, et s'arrêta pour l'entendre, en pensant qu'elle ne devait avoir aucun secret pour lui. Puis, dès les premiers mots, il trouva la conversation entre le père et la fille trop intéressante pour ne pas l'écouter. « À mon père, dit-elle, plaise au ciel que vous ayez eu l'idée de demander compte de ma fortune assez à temps pour que je ne sois pas ruiné. Puis-je parler ?»« Oui, la maison est vide, » dit le père Goriot d'une voix altérée. « Qu'avez-vous donc, mon père ?» reprit Madame de Nucingen. « Tu viens, » répondit le vieillard, « de me donner un coup de hache sur la tête. Dieu te pardonne, mon enfant. Tu ne sais pas combien je t'aime. Si tu l'avais su, tu ne m'aurais pas dit brusquement de semblables choses, surtout si rien n'est désespéré. » Qu'est-il donc arrivé de si pressant pour que tu sois venu me chercher ici, quand dans quelques instants nous allions être rue d'Artois ? Et mon père est-on maître de son premier mouvement dans une catastrophe ? Je suis folle.
Votre avoué nous a fait découvrir un peu plus tôt le malheur qui sans doute éclatera plus tard. Votre vieille expérience commerciale va nous devenir nécessaire et je suis accouru vous chercher comme on s'accroche à une branche quand on se noie. Lorsque M. Derville a vu Nucingen lui opposer 1000 chicanes, il l'a menacé d'un procès en lui disant que l'autorisation du président du tribunal serait promptement obtenue. Nucingen est venu ce matin chez moi pour me demander si je voulais sa ruine et la mienne. Je lui ai répondu que je ne me connaissais à rien de tout cela, que j'avais une fortune, que je devais être en possession de ma fortune, et que tout ce qui avait rapport à ce démêlé regardait mon avoué, que j'étais de la dernière ignorance et dans l'impossibilité de rien entendre à ce sujet. N'était-ce pas ce que vous m'aviez recommandé de dire ? Bien, répondit le père Goriot. Eh bien, reprit Delphine, il m'a mis au fait de ses affaires. Il a jeté tous ses capitaux et les miens dans des entreprises à peine commencées et pour lesquelles il a fallu mettre de grandes sommes en dehors. Si je le forçais à me représenter ma dot, il serait obligé de déposer son bilan. Tandis que si je veux attendre un an, il s'engage sur l'honneur à me rendre une fortune double ou triple de la mienne en plaçant mes capitaux dans des opérations territoriales à la fin desquelles je serai maîtresse de tous les biens. Mon cher père, il était sincère. Il m'a effrayé. Il m'a demandé pardon de sa conduite. Il m'a rendu ma liberté, m'a permis de me conduire à ma guise, à la condition de le laisser entièrement maître de gérer les affaires sous mon nom. Il m'a promis, pour me prouver sa bonne foi, d'appeler M. Derville toutes les fois que je le voudrais, pour juger si les actes en vertu desquels il m'instituerait propriétaire seraient convenablement rédigés. Enfin, il s'est remis entre mes mains, pieds et poings liés. Il demande encore pendant 2 ans la conduite de la maison, et m'a supplié de ne rien dépenser pour moi de plus qu'il ne m'accorde. Il m'a prouvé que tout ce qu'il pouvait faire était de conserver les apparences, qu'il avait renvoyé sa danseuse, et qu'il allait être contraint à la plus stricte mais à la plus sourde économie, afin d'atteindre au terme de ses spéculations sans altérer son crédit. Je l'ai malmené, j'ai tout mis en doute afin de le pousser à bout et d'en apprendre davantage. Il m'a montré ses livres, enfin, il a pleuré. Je n'ai jamais vu d'homme en pareil état. Il avait perdu la tête. Il parlait de se tuer, il délirait. Il m'a fait pitié. « Et tu crois à ces sornettes ?» s'écria le père Goriot. « C'est un comédien. » J'ai rencontré des Allemands en affaires. Ces gens-là sont presque tous de bonne foi, pleins de candeur. Mais quand, sous leur air de franchise et de bonhomie, ils se mettent à être malins et charlatans, ils le sont alors plus que les autres. Ton mari t'abuse. Il se sent serré de près, il fait le mort. Il veut rester plus maître sous ton nom qu'il ne l'est sous le sien. Il va profiter de cette circonstance pour se mettre à l'abri des chances de son commerce. Il est aussi fin que perfide. C'est un mauvais gars, non. Non, je ne m'en irai pas au Père Lachaise en laissant mes filles dénuées de tout. Je me connais encore un peu aux affaires. Il a, dit-il, engagé ses fonds dans les entreprises. Eh bien, ses intérêts sont représentés par des valeurs, par des reconnaissances, par des traités. Qu'il les montre et liquide avec toi. Nous choisirons les meilleures spéculations, nous en courrons les chances, et nous aurons les titres recognitifs en notre nom de Delphine Goriot, épouse séparée quant au bien du baron de Nucingen. Mais nous prend-il pour des imbéciles, celui-là? Croit-il que je puisse supporter pendant 2 jours l'idée de te laisser sans fortune, sans pain? Je ne la supporterai pas un jour, pas une nuit, pas 2 heures. Si cette idée était vraie, je n'y survivrais pas. Et quoi, j'aurais travaillé pendant 40 ans de ma vie. J'aurais porté des sacs sur mon dos, j'aurais sué des averses. Je me serais privé pendant toute ma vie pour vous, mes anges, qui me rendiez tout travail, tout fardeau léger. Et aujourd'hui, ma fortune, ma vie s'en irait en fumée. Ceci me ferait mourir, enragé. Par tout ce qu'il y a de plus sacré sur terre et au ciel, nous allons tirer ça au clair. Vérifier les livres, la caisse, les entreprises. Je ne dors pas, je ne me couche pas. Je ne mange pas qu'il ne me soit prouvé que ta fortune est là, tout entière. Dieu merci, tu es séparé de bien. Tu auras maître Derville pour avouer, un honnête homme, heureusement. Jour de Dieu, tu garderas ton bon petit million, tes 50 000 livres de rente, jusqu'à la fin de tes jours, où je fais un tapage dans Paris. Ah, ah, mais je m'adresserai aux chambres si les tribunaux nous victimaient. Te savoir tranquille et heureuse du côté de l'argent, mais cette pensée allégeait tous mes maux et calmait mes chagrins. L'argent, c'est la vie. Monnaie fait tout. Que nous chante-t-il donc, cette grosse souche d'Alsaciens? Delphine, ne fais pas une concession d'un quart de liard à cette grosse bête qui t'a mise à la chaîne et t'a rendue malheureuse. S'il a besoin de toi, nous le tricoterons ferme et nous le ferons marcher droit. Mon Dieu, j'ai la tête en feu, j'ai dans le crâne quelque chose qui me brûle. Ma Delphine, sur la paille. Oh, ma fifine, toi. Sapristi, où sont mes gants? Allons, partons, je veux aller tout voir. Les livres, les affaires, la caisse, la correspondance, à l'instant. Je ne serai calme que quand il me sera prouvé que ta fortune ne court plus de risques et que je la verrai de mes yeux. Mon cher père, allez-y prudemment. Si vous mettiez la moindre velléité de vengeance en cette affaire, et si vous montriez des intentions trop hostiles, je serais perdu. Il vous connaît. Il a trouvé tout naturel que, sous votre inspiration, je m'inquiétasse de ma fortune. mais je vous le jure, il la tient en ses mains et a voulu la tenir. Il est homme à s'enfuir avec tous les capitaux et à nous laisser là, le scélérat. Il sait bien que je ne déshonorerai pas moi-même le nom que je porte en le poursuivant. Il est à la fois fort et faible. J'ai bien tout examiné. Si nous le poussons à bout, je suis ruiné. Mais c'est donc un fripon ? Eh bien oui, mon père, dit-elle en se jetant sur une chaise en pleurant. Je ne voulais pas vous l'avouer pour vous épargner le chagrin de m'avoir marié à un homme de cette espèce-là. Mœurs secrètes et conscience, l'âme et le corps, tout en lui s'accordent. C'est effroyable, je le hais et le méprise. Oui, je ne puis plus estimer ce vil Nucingen après tout ce qu'il m'a dit. Un homme capable de se jeter dans les combinaisons commerciales dont il m'a parlé n'a pas la moindre délicatesse. Et mes craintes viennent de ce que j'ai lu parfaitement dans son âme. Il m'a nettement proposé, lui, mon mari, la liberté. Vous savez ce que cela signifie? Si je voulais être, en cas de malheur, un instrument entre ses mains, enfin, si je voulais lui servir de prête-nom. Mais les lois sont là! Mais il y a une place de grève pour les gendres de cette espèce-là, s'écria le père Goriot. Mais je le guillotinerais moi-même s'il n'y avait pas de bourreau. Non, mon père, il n'y a pas de loi contre lui. Écoutez en deux mots son langage, dégagé des circonlocutions dont il l'enveloppait. Ou tout est perdu, vous n'avez pas un liard, vous êtes ruiné, car je ne saurais choisir pour complice une autre personne que vous. Ou vous me laisserez conduire à bien mes entreprises. Est-ce clair? Il tient encore à moi. Ma probité de femme le rassure. Il sait que je lui laisserai sa fortune et me contenterai de la mienne. C'est une association improbe et voleuse à laquelle je dois consentir sous peine d'être ruiné. Il m'achète ma conscience et la paye, en me laissant être à mon aise la femme de Gênes. Je te permets de commettre des fautes, laisse-moi faire des crimes en ruinant de pauvres gens. Ce langage est-il encore assez clair? Savez-vous ce qu'il nomme faire des opérations? Il achète des terrains nus sous son nom, puis il les fait bâtir des maisons par des hommes de paille. Ces hommes concluent les marchés pour les bâtisses avec tous les entrepreneurs, qu'ils payent en effet à long terme, et consentent, moyennant une légère somme, à donner quittance à mon mari, qui est alors possesseur des maisons, tandis que ces hommes s'acquittent avec les entrepreneurs dupés en faisant faillite. Le nom de la maison Nucingen a servi à éblouir les pauvres constructeurs. J'ai compris cela. J'ai compris aussi que, pour prouver, en cas de besoin, le paiement de sommes énormes, Nucingen a envoyé des valeurs considérables à Amsterdam, à Londres, à Naples, à Vienne. Comment les saisirions-nous? Eugène entendit le son lourd des genoux du père Goriot, qui tomba sans doute sur le carreau de sa chambre. « Mon Dieu, que t'ai-je fait? Ma fille livrée à ce misérable. Il exigera tout d'elle s'il le veut. Pardon, ma fille, cria le vieillard. Oui, si je suis dans un abîme, il y a peut-être de votre faute, dit Delphine. Nous avons si peu de raisons quand nous nous marions. Connaissons-nous le monde, les affaires, les hommes, les mœurs? Les pères devraient penser pour nous. Cher père, je ne vous reproche rien, pardonnez-moi ce mot. En ceci, la faute est toute à moi. Non, ne pleurez point, papa, dit-elle en baisant le front de son père. Ne pleure pas non plus, ma petite Delphine. Donne tes yeux, que je les essuie en les baisant. Va, je vais retrouver ma caboche et débrouiller les chevaux d'affaires que ton mari a mêlés. Non, laissez-moi faire, je saurai le manœuvrer. Il m'aime, eh bien je me servirai de mon empire sur lui pour l'amener à me placer promptement quelques capitaux en propriété. Peut-être lui ferai-je racheter sous mon nom Nucingen en Alsace, il y tient. Seulement venez demain pour examiner ses livres, ses affaires. Monsieur Derville ne sait rien de ce qui est commercial. Non, ne venez pas demain, je ne veux pas me tourner le sang. Le bal de Madame de Beauséant a lieu après-demain, je veux me soigner pour y être belle, reposée et faire honneur à mon cher Eugène. Allons donc voir sa chambre. En ce moment, une voiture s'arrêta dans la rue Neuve-Sainte-Geneviève et l'on entendit dans l'escalier la voix de Madame de Restaud qui disait à Sylvie « Mon père y est-il ? » Cette circonstance sauva heureusement Eugène qui méditait déjà de se jeter sur son lit et de feindre d'y dormir. « Ah, mon père, vous a-t-on parlé d'Anastasie ?» dit Delphine en reconnaissant la voix de sa sœur. « Il paraît qu'il arrive aussi de singulières choses dans son ménage. »« Quoi donc ?» dit le père Goriot. « Ce serait donc ma fin. Ma pauvre tête ne tiendra pas à un double malheur. »« Bonjour, mon père, » dit la comtesse en entrant. « Ah, te voilà, Delphine. » Madame de Restaud parut embarrassée de rencontrer sa sœur. « Bonjour, Nazie, » dit la baronne. « Trouves-tu donc ma présence extraordinaire ? Je vois mon père tous les jours, moi. « Depuis quand ? Si tu y venais, tu le saurais. » « Ne me taquine pas, Delphine, » dit la comtesse d'une voix lamentable. « Je suis bien malheureuse, je suis perdue, mon pauvre père. Oh, bien perdue, cette fois. »« Qu'as-tu, Nazie ? » cria le père Goriot. « Dis-nous tout, mon enfant. » Elle pâlit. « Delphine, allons, secours-la donc, sois bonne pour elle. Je t'aimerai encore mieux si je peux, toi. »
Ma pauvre Nasie, dit Madame de Nucingen en assaillant sa sœur. Parle. Tu vois en nous les deux seules personnes qui t'aimeront toujours assez pour te pardonner tout. Vois-tu, les affections de famille sont les plus sûres. Elle lui fit respirer des sels et la comtesse revint à elle. J'en mourrai, dit le père Goriot. Voyons, reprit-il en remuant son feu de motte. Approchez-vous toutes les deux, j'ai froid. Qu'as-tu, Nasie ? Dis vite, tu me tues. Eh bien, dit la pauvre femme, mon mari sait tout. Figurez-vous, mon père, il y a quelque temps, vous souvenez-vous de cette lettre de change de Maxime ? Eh bien, ce n'était pas la première. J'en avais déjà payé beaucoup. Vers le commencement de janvier, Monsieur de Trailles me paraissait bien chagrin. Il ne me disait rien, mais il est si facile de lire dans le cœur des gens qu'on aime. Un rien suffit. Puis, il y a des pressentiments. Enfin, il était plus aimant, plus tendre que je ne l'avais jamais vu. J'étais toujours plus heureuse. Pauvre Maxime. Dans sa pensée, il me faisait ses adieux, m'a-t-il dit. Il voulait se brûler la cervelle. Enfin, je l'ai tant tourmenté, tant supplié. Je suis resté 2 heures à ses genoux. Il m'a dit qu'il devait 100 000 francs. Oh, papa, 100 000 francs, je suis devenue folle. Vous ne les aviez pas, j'avais tout dévoré. Non, dit le père Goriot, je n'aurais pas pu les faire, à moins d'aller les voler. Mais j'y aurais été, Nasie. J'irais. À ce mot lugubrement jeté comme un son du râle d'un mourant, et qui accusait l'agonie du sentiment paternel réduit à l'impuissance, les deux sœurs firent une pause. Quel égoïsme serait resté froid à ce cri de désespoir qui, semblable à une pierre lancée dans un gouffre, en révélait la profondeur. Je les ai trouvés en disposant de ce qui ne m'appartenait pas, mon père, dit la comtesse en fondant en larmes. Delphine fut émue et pleura en mettant la tête sur le cou de sa sœur. Tout est donc vrai, dit-elle. Anastasie baissa la tête. Madame de Nucingen la saisit à plein corps, la baisa tendrement, et l'appuyant sur son cœur, « Ici, tu seras toujours aimé, sans être jugé, lui dit-elle. « Mes anges, dit Goriot d'une voix faible, pourquoi votre union est-elle due au malheur ?»« Pour sauver la vie de Maxime, enfin, pour sauver tout mon bonheur, reprit la comtesse encouragée par ces témoignages d'une tendresse chaude et palpitante, j'ai porté chez cet usurier que vous connaissez, un homme fabriqué par l'enfer, que rien ne peut attendrir, ce monsieur Gobseck, les diamants de famille auxquels tient tant monsieur de Restaud, les siens, les miens, tout, je les ai vendus. Vendus, comprenez-vous ? Il a été sauvé, mais moi je suis morte. Restaud a tout su. Mais par qui ? Comment ? Que je le tue ! Cria le père Goriot. Hier, il m'a fait appeler dans sa chambre, j'y suis allé. Anastasie, m'a-t-il dit d'une voix. Oh, sa voix a suffi, j'ai tout deviné. Où sont vos diamants ? Chez moi ? Non, m'a-t-il dit en me regardant, ils sont là, sur ma commode. Et il m'a montré l'écrin qu'il avait couvert de son mouchoir. Vous savez d'où ils viennent, m'a-t-il dit ? Je suis tombé à ses genoux, j'ai pleuré, je lui ai demandé de quelle mort il voulait me voir mourir. Tu as dit cela ? S'écria le père Goriot. Par le sacré nom de Dieu, celui qui vous fera mal à l'une ou à l'autre, tant que je serai vivant, peut-être sûr que je le brûlerai à petit feu. Oui, je le déchiqueterai comme... Le père Goriot se tut, les mots expiraient dans sa gorge. Enfin, ma chère, il m'a demandé quelque chose de plus difficile à faire que de mourir. Le ciel préserve toute femme d'entendre ce que j'ai entendu. J'assassinerai cet homme, dit le père Goriot tranquillement. Mais il n'a qu'une vie, et il m'en doit deux. Enfin, quoi ? Reprit-il en regardant Anastasie. Eh bien, dit la comtesse en continuant après une pause, il m'a regardé. Anastasie, m'a-t-il dit, j'ensevelis tout dans le silence. Nous resterons ensemble, nous avons des enfants. Je ne tuerai pas Monsieur de Trailles, je pourrais le manquer. Et pour m'en défaire autrement, je pourrais me heurter contre la justice humaine. Le tuer dans vos bras, ce serait déshonorer les enfants. Mais pour ne voir périr ni vos enfants, ni leur père, ni moi, je vous impose 2 conditions. Répondez, ai-je un enfant à moi ? J'ai dit oui. Lequel ? A-t-il demandé. Ernest, notre aîné ? Bien, a-t-il dit. Maintenant, jurez-moi de m'obéir désormais sur un seul point. J'ai juré. Vous signerez la vente de vos biens quand je vous le demanderai. Ne signe pas ! Cria le père Goriot. Ne signe jamais cela ! Ah ah, monsieur de Restaud, vous ne savez pas ce que c'est que de rendre une femme heureuse. Elle va chercher le bonheur là où il est, et vous la punissez de votre niaise impuissance. Je suis là, moi. Halte là, il me trouvera dans sa route. Nasie, sois en repos. Ah, il tient à son héritier. Bon, je lui empoignerai son fils, qui sacré tonnerre est mon petit-fils. Je puis bien le voir, ce marmot. Je le mets dans mon village. J'en aurai soin, sois bien tranquille. Je le ferai capituler, ce monstre-là,
en lui disant « à nous deux ». Si tu veux avoir ton fils, rends à ma fille son bien et laisse-la se conduire à sa guise. Mon père, oui ton père. Ah, je suis un vrai père. Que ce drôle de grand seigneur ne maltraite pas mes filles. Tonnerre, je ne sais pas ce que j'ai dans les veines, j'y ai le sang d'un tigre. Je voudrais dévorer ces deux hommes. Oh, mes enfants, voilà donc votre vie. Mais c'est ma mort. Que deviendrez-vous donc quand je ne serai plus là? Les pères devraient vivre autant que leurs enfants. Mon Dieu, comme ton monde est mal arrangé. Et tu as un fils, cependant, à ce qu'on nous dit. Tu devrais nous empêcher de souffrir dans nos enfants. Mes chers anges, quoi, ce n'est qu'à vos douleurs que je dois votre présence. Vous ne me faites connaître que vos larmes. Eh bien oui, vous m'aimez, je le vois. Venez, venez, vous plaindre ici. Mon cœur est grand, il peut tout recevoir. Oui, vous aurez beau le percer, les lambeaux feront encore des cœurs de père. Je voudrais prendre vos peines, souffrir pour vous. Ah, quand vous étiez petite, vous étiez bien heureuse. Nous n'avons eu que ce temps-là de bon, dit Delphine. Où sont les moments où nous dégringolions du haut des sacs dans le grand grenier? Mon père, ce n'est pas tout, dit Anastasie à l'oreille de Goriot qui fit un bond. Les diamants n'ont pas été vendus 100 000 francs. Maxime est poursuivi. Nous n'avons plus que 12 000 francs à payer. Il m'a promis d'être sage, de ne plus jouer. Il ne me reste plus au monde que son amour, et je l'ai payé trop cher pour ne pas mourir s'il m'échappait. Je lui ai sacrifié fortune, honneur, repos, enfant. Oh, faites qu'au moins Maxime soit libre, honoré, qu'il puisse demeurer dans le monde où il saura se faire une position. Maintenant, il ne me doit pas que le bonheur. Nous avons des enfants qui seraient sans fortune. Tout sera perdu s'il est mis à Sainte-Pélagie. Je ne les ai pas, Nasie. Plus rien. C'est la fin du monde. Oh, le monde va crouler, c'est sûr. Allez-vous-en, sauvez-vous avant. Ah, j'ai encore mes boucles d'argent. 6 couverts, les premiers que j'ai eus dans ma vie. Enfin, je n'ai plus que 1 200 francs de rente viagère. Et qu'avez-vous donc fait de vos rentes perpétuelles? Je les ai vendues en me réservant ce petit bout de revenu pour mes besoins. Il me fallait 12 000 francs pour arranger un appartement à Fifine. Chez toi, Delphine? Dit Madame de Restaud à sa sœur. Oh, qu'est-ce que cela fait? Reprit le père Goriot. Les 12 000 francs sont employés. Je devine, dit la comtesse. Pour Monsieur de Rastignac. Ah, ma pauvre Delphine, arrête-toi. Vois où j'en suis. Ma chère, Monsieur de Rastignac est un jeune homme incapable de ruiner sa maîtresse. Merci, Delphine. Dans la crise où je me trouve, j'attendais mieux de toi. Mais tu ne m'as jamais aimé. Si elle t'aime, Nasie, cria le père Goriot. Elle me le disait tout à l'heure. Nous parlions de toi. Elle me soutenait que tu étais belle et qu'elle n'était que jolie, elle. Elle, répéta la comtesse, elle est d'un beau froid. Quand cela serait, dit Delphine en rougissant, comment t'es-tu comportée envers moi? Tu m'as renié. Tu m'as fait fermer les portes de toutes les maisons où je souhaitais aller. Enfin, tu n'as jamais manqué la moindre occasion de me causer de la peine. Et moi, suis-je venu, comme toi, soutirer à ce pauvre père, 1 000 francs à 1 000 francs, sa fortune, et le réduire dans l'état où il est? Voilà ton ouvrage, ma sœur. Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai pu. Je ne l'ai pas mis à la porte, et je ne suis pas venu lui lécher les mains quand j'avais besoin de lui. Je ne savais seulement pas qu'il eût employé ses 12 000 francs pour moi. J'ai de l'ordre, moi, tu le sais. D'ailleurs, quand papa m'a fait des cadeaux, je ne les ai jamais quêtés. Tu étais plus heureuse que moi. Monsieur de Marsay était riche, tu en sais quelque chose. Tu as toujours été vilaine comme l'or. Adieu, je n'ai ni sœur, ni... Tais-toi, Nasie ! Cria le père Goriot. Il n'y a qu'une sœur comme toi qui puisse répéter ce que le monde ne croit plus. Tu es un monstre, lui dit Delphine. Mes enfants, taisez-vous, ou je me tue devant vous. Va, Nasie, je te pardonne, dit madame de Nucingen en continuant. Tu es malheureuse, mais je suis meilleure que tu ne l'es. Me dire cela... au moment où je me sentais capable de tout pour te secourir, même d'entrer dans la chambre de mon mari, ce que je ne ferais ni pour moi, ni pour... Ceci est digne de tout ce que tu as commis de mal contre moi depuis 9 ans. Mes enfants, embrassez-vous, dit le père, vous êtes 2 anges. Non, laissez-moi, cria la comtesse, que Goriot avait prise par le bras et qui secoua l'embrassement de son père. Elle a moins de pitié pour moi que n'en aurait mon mari. Ne dirait-on pas qu'elle est l'image de toutes les vertus? J'aime encore mieux passer pour devoir de l'argent à Monsieur de Marsay que d'avouer que Monsieur de Trailles me coûte plus de 200 000 francs, répondit Madame de Nucingen. Delphine ! Cria la comtesse en faisant un pas vers elle. Je te dis la vérité quand tu me calomnies, répliqua froidement la baronne. Delphine, tu es une... Le père Goriot s'élança, retint la comtesse et l'empêcha de parler en lui couvrant la bouche avec sa main. Mon Dieu, mon père, à quoi donc avez-vous touché ce matin ? Lui dit Anastasie. « Eh bien oui, j'ai tort, » dit le pauvre père en s'essuyant les mains à son pantalon. « Mais je ne savais pas que vous viendriez. Je déménage. »
Il était heureux de s'être attiré un reproche qui détournait sur lui la colère de sa fille. « Ah !» reprit-il en s'asseyant, « vous m'avez fendu le cœur. Je me meurs, mes enfants. Le crâne me cuit intérieurement comme s'il avait du feu. Soyez donc gentille. Aimez-vous bien. Vous me feriez mourir. Delphine, Nasie, allons, vous aviez raison, vous aviez tort, toutes les deux. Voyons, Dédel, reprit-il en portant sur la baronne des yeux pleins de larmes. Il lui faut 12 000 francs, cherchons-les. Ne vous regardez pas comme ça. » Il se mit à genoux devant Delphine. « Demande-lui pardon pour me faire plaisir, lui dit-il à l'oreille. Elle est la plus malheureuse, voyons. » « Ma pauvre Nasie, dit Delphine, épouvantée de la sauvage et folle expression que la douleur imprimait sur le visage de son père. « J'ai eu tort. Embrasse-moi. »« Ah, vous me mettez du baume sur le cœur, cria le père Goriot. Mais où trouver 12 000 francs? Si je me proposais comme remplaçant. Ah, mon père, dirent les deux filles en l'entourant. Non, non. Dieu vous récompensera de cette pensée. Notre vie n'y suffirait point, n'est-ce pas, Nasie ? Reprit Delphine. « Et puis, pauvre père, ce serait une goutte d'eau, fit observer la comtesse. « Mais on ne peut donc rien faire de son sang ! Cria le vieillard désespéré. « Je me voue à celui qui te sauvera, Nasie. Je tuerai un homme pour lui. Je ferai comme Vautrin, j'irai au bagne, je... » Il s'arrêta comme s'il eût été foudroyé. « Plus rien, dit-il en s'arrachant les cheveux. « Si je savais où aller pour voler, mais il est encore difficile de trouver un vol à faire. Et puis il faudrait du monde et du temps pour prendre la banque. Allons, je dois mourir. Je n'ai plus qu'à mourir. Oui, je ne suis plus bon à rien, je ne suis plus père, non. Elle me demande, elle a besoin, et moi, misérable, je n'ai rien. Ah, tu t'es fait des rentes viagères, vieux scélérat, et tu avais des filles. Mais tu ne les aimes donc pas. Crève, crève comme un chien que tu es. Oui, je suis au-dessous d'un chien. Un chien ne se conduirait pas ainsi. Oh, ma tête, elle bout. Mais papa, crièrent les deux jeunes femmes qui l'entouraient pour l'empêcher de se frapper la tête contre les murs. Soyez donc raisonnables. Il sanglotait. Eugène, épouvanté, prit la lettre de change souscrite à Vautrin et dont le timbre comportait une plus forte somme. Il en corrigea le chiffre, en fit une lettre de change régulière de 12 000 francs à l'ordre de Goriot et entra. « Voici tout votre argent, madame, dit-il en présentant le papier. Je dormais. Votre conversation m'a réveillé. J'ai pu savoir ainsi ce que je devais à monsieur Goriot. En voici le titre que vous pouvez négocier, je l'acquitterai fidèlement. » La comtesse, immobile, tenait le papier. « Delphine, dit-elle pâle et tremblante de colère, de fureur, de rage, je te pardonnais tout, Dieu m'en est témoin, mais ceci, comment, monsieur était là, tu le savais. Tu as eu la petitesse de te venger en me laissant lui livrer mes secrets, ma vie, celle de mes enfants, ma honte, mon honneur. Va, tu ne m'es plus de rien, je te hais, je te ferai tout le mal possible, je... » La colère lui coupa la parole et son gosier se sécha. « Mais c'est mon fils, notre enfant, ton frère, ton sauveur !» cria le père Goriot. « Embrasse-le donc, Nasie !»« Tiens, moi, je l'embrasse !» reprit-il en serrant Eugène avec une sorte de fureur. « Oh, mon enfant, je serai plus qu'un père pour toi, je veux être une famille. Je voudrais être Dieu, je te jetterai l'univers aux pieds. Mais baise-le donc, Nasie ! Ce n'est pas un homme, mais un ange, un véritable ange !»« Laissez-la, mon père, elle est folle en ce moment, » dit Delphine. « Folle, folle, et toi, qu'es-tu ? » demanda madame de Restaud. « Mes enfants, je meurs si vous continuez !» cria le vieillard en tombant sur son lit comme frappé par une balle. « Elle me tue, se dit-il. » La comtesse regarda Eugène qui restait immobile, abasourdi par la violence de cette scène. « Monsieur, lui dit-elle en l'interrogeant du geste, de la voix et du regard, sans faire attention à son père dont le gilet fut rapidement défait par Delphine. « Madame, je paierai et je me tairai, » répondit-il sans attendre la question. « Tu as tué notre père, Nasie, » dit Delphine en montrant le vieillard évanoui à sa sœur qui se sauva. « Je lui pardonne bien, » dit le bonhomme en ouvrant les yeux. « Sa situation est épouvantable et tournerait une meilleure tête. Console, Nasie, sois douce pour elle. Promets-le à ton pauvre père qui se meurt, » demanda-t-il à Delphine en lui pressant la main. « Mais qu'avez-vous ? » dit-elle tout effrayée. « Rien, rien, » répondit le père, « ça se passera. J'ai quelque chose qui me presse le front. Une migraine. » Pauvre Nasie, quel avenir ! En ce moment, la comtesse rentra, se jeta aux genoux de son père. « Pardon !» cria-t-elle. « Allons, » dit le père Goriot, « tu me fais encore plus de mal maintenant. » « Monsieur, » dit la comtesse à Rastignac, les yeux baignés de larmes, « la douleur m'a rendu injuste. « Vous serez un frère pour moi, » reprit-elle en lui tendant la main. « Nasie, » lui dit Delphine en la serrant, « ma petite Nasie, oublions tout. »« Non, » dit-elle, « je m'en souviendrai, moi. » « Les anges !» s'écria le père Goriot. « Vous m'enlevez le rideau que j'avais sur les yeux. Votre voix me ranime.
embrassez-vous donc encore. Eh bien, Nasie, cette lettre de change te sauvera-t-elle?
Je l'espère.
Dites donc, papa, voulez-vous y mettre votre signature?
Tiens, suis-je bête, moi, d'oublier ça. Mais je me suis trouvé mal. Nasie, ne m'en veux pas. Envoie-moi dire que tu es hors de peine. Non, j'irai. Mais non, je n'irai pas, je ne puis plus voir ton mari, je le tuerai net. Quand ta dénaturée t'est bien, je serai là. Va vite, mon enfant, et fais que Maxime devienne sage.
Eugène était stupéfait.
Cette pauvre Anastasie a toujours été violente, dit madame de Nucingen, mais elle a bon cœur.
Elle est revenue pour Landau, dit Eugène à l'oreille de Delphine.
Vous croyez ?
Je voudrais ne pas le croire. Méfiez-vous d'elle, répondit-il en levant les yeux comme pour confier à Dieu des pensées qu'il n'osait exprimer.
Oui, elle a toujours été un peu comédienne, et mon pauvre père se laisse prendre à ses mines.
Comment allez-vous, mon bon père Goriot ? Demanda Rastignac au vieillard.
J'ai envie de dormir, répondit-il.
Eugène aida Goriot à se coucher. Puis, quand le bonhomme se fut endormi en tenant la main de Delphine, sa fille se retira.
Ce soir aux Italiens, dit-elle à Eugène, et tu me diras comment il va.
Demain, vous déménagerez, monsieur.
Voyons votre chambre.
Oh, quelle horreur, dit-elle en y entrant. Mais vous étiez plus mal que n'est mon père.
Eugène, tu t'es bien conduit. Je vous aimerais davantage si c'était possible. Mais, mon enfant, si vous voulez faire fortune, il ne faut pas jeter comme ça 12 000 francs par les fenêtres. Le comte de Trailles est joueur. Ma sœur ne veut pas voir ça. Il aurait été chercher ses 12 000 francs là où il sait perdre ou gagner des monts d'or.
Un gémissement les fit revenir chez Goriot, qu'ils trouvèrent en apparence endormi. Mais quand les deux amants s'approchèrent, ils entendirent ces mots. Elles ne sont pas heureuses. Qu'il dormît ou qu'il veillât, l'accent de cette phrase frappa si vivement le cœur de sa fille qu'elle s'approcha du grabat sur lequel gisait son père et le baisa au front. Il ouvrit ses yeux en disant « C'est Delphine ».
« Eh bien, comment vas-tu » demanda-t-elle.
« Bien, » dit-il. « Ne sois pas inquiète, je vais sortir. Allez, allez, mes enfants, soyez heureux. »
Eugène accompagna Delphine jusque chez elle, mais, inquiet de l'état dans lequel il avait laissé Goriot, il refusa de dîner avec elle et revint à la maison Vauquer. Il trouva le père Goriot debout et prêt à s'attabler. Bianchon s'était mis de manière à bien examiner la figure du vermicellier. Quand il lui vit prendre son pain et le sentir pour juger de la farine avec laquelle il était fait, l'étudiant ayant observé dans ce mouvement une absence totale de ce que l'on pourrait nommer la conscience de l'acte, fit un geste sinistre.
« Viens donc près de moi, monsieur l'interne à Cochin, » dit Eugène. Bianchon s'y transporta d'autant plus volontiers qu'il allait être près du vieux pensionnaire.
« Qu'a-t-il ? » demanda Rastignac.
« À moins que je ne me trompe, il est flambé. »
Il a dû se passer quelque chose d'extraordinaire en lui. Il me semble être sous le poids d'une apoplexie sérieuse, imminente. Quoique le bas de la figure soit assez calme, les traits supérieurs du visage se tirent vers le front malgré lui, vois ?
Puis les yeux sont dans l'état particulier qui dénote l'invasion du sérum dans le cerveau. Ne dirait-on pas qu'ils sont pleins d'une poussière fine ?
Demain matin, j'en saurai davantage.
Y aurait-il quelques remèdes ?
Aucun. Peut-être pourra-t-on retarder sa mort si l'on trouve les moyens de déterminer une réaction vers les extrémités, vers les jambes.
Mais si demain soir les symptômes ne cessent pas, le pauvre bonhomme est perdu.
Sais-tu par quel événement la maladie a été causée ?
Il a dû recevoir un coup violent sous lequel son moral aura succombé.
Oui, dit Rastignac en se rappelant que les deux filles avaient battu sans relâche sur le cœur de leur père.
Au moins, se disait Eugène, Delphine aime son père, elle.
Le soir, aux Italiens, Rastignac prit quelques précautions afin de ne pas trop alarmer madame de Nucingen.
« N'ayez pas d'inquiétude, répondit-elle au premier mot que lui dit Eugène. Mon père est fort. Seulement, ce matin, nous l'avons un peu secoué. Nos fortunes sont en question. Songez-vous à l'étendue de ce malheur.
Je ne vivrai pas si votre affection ne me rendait pas insensible à ce que j'aurais regardé naguère comme des angoisses mortelles. Il n'est plus aujourd'hui qu'une seule crainte, un seul malheur pour moi. C'est de perdre l'amour qui m'a fait sentir le plaisir de vivre. En dehors de ce sentiment, tout m'est indifférent. Je n'aime plus rien au monde. Vous êtes tout pour moi. Si je sens le bonheur d'être riche, c'est pour mieux vous plaire. Je suis, à ma honte, plus amante que je ne suis fille. Pourquoi, je ne sais, toute ma vie est en vous. Mon père m'a donné un cœur, mais vous l'avez fait battre. Le monde entier peut me blâmer, que m'importe, si vous, qui n'avez pas le droit de m'en vouloir, m'acquittez des crimes auxquels me condamne un sentiment irrésistible. Me croyez-vous une fille dénaturée? Oh non, il est impossible de ne pas aimer un père aussi bon que l'est le nôtre. Pouvais-je empêcher qu'il ne vît enfin les suites naturelles de nos déplorables mariages? Pourquoi ne les a-t-il pas empêchés? N'était-ce pas à lui de réfléchir pour nous? Aujourd'hui, je le sais, il souffre autant que nous, mais que pouvions-nous y faire? Le consoler, nous ne le consolerions de rien. Notre résignation lui faisait plus de douleur que nos reproches et nos plaintes ne lui causeraient de mal. Il est des situations dans la vie où tout est amertume. Eugène resta muet, saisi de tendresse par l'expression naïve d'un sentiment vrai. Si les Parisiennes sont souvent fausses, ivres de vanité, personnelles, coquettes, froides, il est sûr que quand elles aiment réellement, elles sacrifient plus de sentiments que les autres femmes à leur passion. Elles se grandissent de toute leur petitesse et deviennent sublimes. Puis Eugène était frappé de l'esprit profond et judicieux que la femme déploie pour juger les sentiments les plus naturels quand une affection privilégiée l'en sépare et la met à distance. Madame de Nucingen se choqua du silence que gardait Eugène. « À quoi pensez-vous donc ?» lui demanda-t-elle. « J'écoute encore ce que vous m'avez dit. J'ai cru jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m'aimiez. » Elle sourit et s'arma contre le plaisir qu'elle éprouva pour laisser la conversation dans les bornes imposées par les convenances. Elle n'avait jamais entendu les expressions vibrantes d'un amour jeune et sincère. Quelques mots de plus, elle ne se serait plus contenue. « Eugène, dit-elle en changeant de conversation, vous ne savez donc pas ce qui se passe ? Tout Paris sera demain chez Madame de Beauséant. Les Rochefide et le marquis d'Ajuda se sont entendus pour ne rien ébruiter, mais le roi signe demain le contrat de mariage, et votre pauvre cousine ne sait rien encore. Elle ne pourra pas se dispenser de recevoir, et le marquis ne sera pas à son bal. On ne s'entretient que de cette aventure. Et le monde se rit d'une infamie, et il y trempe. Vous ne savez donc pas que Madame de Beauséant en mourra ? Non, dit Delphine en souriant, vous ne connaissez pas ces sortes de femmes-là. Mais tout Paris viendra chez elle, et j'y serai. Je vous dois ce bonheur-là, pourtant. Mais, dit Rastignac, n'est-ce pas un de ces bruits absurdes, comme on en fait encourir à Paris ? Nous saurons la vérité demain.